Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 73 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Mélissa est sage-femme et j'ai adoré discuter avec elle de son expérience de la maternité. Parce qu'il faut bien se le dire, dans l'imaginaire collectif, la sage-femme est sur la plus haute marche du podium de la connaissance et de la compétence en termes de parentalité et de grossesse. Mais en fait, Mélissa est hyper décomplexante. Du test de grossesse au sexe de son enfant, elle a eu les mêmes doutes que nous tous. Son projet de naissance à domicile, alors même que son métier est d'accompagner les accouchements en structure hospitalière, légitime toutes nos envies à nous aussi d'accouchements plus intimes et moins médicalisés. Mais Mélissa n'était pas avec nous uniquement pour échanger de son expérience de la parentalité du côté qu'elle ne connaissait pas. Elle a avant tout souhaité témoigner du mode de parentalité qu'elle a choisi de mener. Elle a fait un bébé avec une personne avec laquelle elle savait qu'elle avait plein de projets à mener, mais pas celui d'être un couple. Quand il lui est apparu que c'était une évidence de fonder une famille avec le papa de sa fille, alors ils ont parlé de coparentalité. Les mots étaient posés, ont été confirmés, et boum, l'étincelle a pris. Je reçois très peu de témoignages de coparentalité, alors je suis vraiment heureuse de pouvoir clôturer cette saison en vous en proposant un malgré tout. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. J'ai un peu rebondi sur un de tes messages que tu m'as envoyé en message privé sur Instagram concernant un épisode que j'avais sorti et qui te faisait écho parce que tu es dans une situation de coparentalité. Et j'ai tellement peu de témoignages sur la coparentalité alors que je pense pas que ce soit le reflet de ce qui se passe réellement dans la société que j'ai bondi sur toi pour pouvoir enregistrer ensemble et que tu me racontes votre parcours. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille ?
Donc, moi, j'ai 34 ans. Et donc, ma famille, c'est ma fille, d'abord. Et puis, ma maman, mes sœurs, les beaux-frères et mes neveux et nièces. Et du coup, je sais que tu poses cette question. Du coup, j'avais un peu réfléchi, est-ce que le père de ma fille était dans ma famille ou pas ? Et en fait, il est dans ma famille, mais il n'est pas dans ma famille. Si je devais mettre ma famille dans un cadre, je le mettrais sur la ligne du cadre, par exemple. Donc voilà.
D'accord. Du coup, tu es sur de la coparentalité en parent solo, c'est ça ?
Oui.
Pardon, je sais pas. Enfin, tu n'es pas en couple avec quelqu'un ?
Non.
D'accord, ok, donc on est d'accord là-dessus.
Ouais.
Est-ce que tu peux me parler du cheminement que tu as fait pour, enfin, de ta réflexion en tout cas autour de l'accès à la parentalité et de la parentalité. Est-ce que ça a toujours été présent en toi ou est-ce que c'est relativement récent? Tu peux me raconter?
Je sais que j'ai toujours eu envie d'être maman et j'avais toujours dit que j'aurais un enfant jeune. Et puis, vie a fait que ça s'est pas mis, que j'étais en relation longue avec des personnes avec qui j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants, que ça se mettait pas bien dans mon vie professionnelle, enfin ce genre de choses. Mmh. Et puis, j'avais déjà entendu parler de la coparentalité un peu par hasard. Il y a vraiment des années et des années, j'avais regardé un peu les sites pour trouver des coparents, et puis j'avais un peu abandonné l'idée parce que voilà, ça me convenait pas forcément de passer par un espèce de magasin de parents. Et puis, j'ai rencontré le papa de ma fille dans tout à fait un autre contexte. On s'est rencontrés sur Tinder.
D'accord.
Donc, à la base, plutôt dans une idée de se mettre en couple. Mm-hmm. Et puis, après, on a été un peu ensemble. Et puis, il y a eu tout un cheminement entre nous. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait envie de faire quelque chose ensemble, mais on ne savait pas trop quoi. Au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose donc qu'on n'arrivait pas à définir. On n'avait pas envie d'être potes, on n'avait pas envie d'être ensemble. Et à chaque fois, on se recontactait et on se revoyait. Et puis on était là, oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est rendu compte qu'en fait, on aurait bien fait une famille ensemble. Et donc voilà. Et donc ça a pris un peu de temps, mais à un moment donné, on en a parlé et on s'est dit, en fait, ça pourrait marcher. Et ça marchait bien dans nos vies. C'était ce qu'on avait envie à ce moment-là, c'était d'être parents et pas forcément d'être en couple. Et du coup, on s'est lancé dans le projet.
Et en fait, quand tu me dis que vous auriez bien fait une famille ensemble, donc c'était très clair que pour vous, ce serait sans relation amoureuse entre vous. Mais vous aviez notion de la coparentalité ou pas du tout?
Moi, j'avais notion de la coparentalité parce que je m'y étais intéressée quelques années plus tôt. Mmh. Après, on connaissait personne qui l'avait fait, mais j'étais tombée, je crois, sur un article il y a quelques années. Et donc voilà, j'avais cette notion-là, mais c'était quand on s'est rencontrés et au début, on se connaissait, on n'avait pas du tout ça en tête. Mm-hmm. Et c'est au fur et à mesure des discussions et de, on a été ensemble pendant quelques mois et au final, on s'est rendu compte qu'on était ensemble juste parce qu'on projetait une vie de famille ensemble, mais qu'en fait, on voulait pas être ensemble. Mmh. Et donc tout ça a fait qu'au fur et à mesure, bride par bride, on est revenu à cette histoire de, en fait, on pourrait être parents ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? Et moi, j'ai repensé à cet article que j'avais lu et on s'est re-renseigné et ça a été un long cheminement. Donc moi, j'avais notion de la coparentalité, même si j'y ai pas du tout pensé au début. Lui, par contre, il n'avait jamais entendu parler de ça, mais il n'était pas contre.
Oui, c'est toi qui lui en as parlé du coup.
Oui.
Et
oui.
Ouais, d'accord. Comment ça s'est concrétisé? Parce que c'est pas... Enfin, après, il faut mettre en place l'idée de la coparentalité.
En fait, on en a parlé la toute première fois, un jour, tard le soir, après une bonne bouteille de vin et plusieurs rhums. Ouais, on en a vraiment parlé, on était sous. Puis c'est resté un peu en suspens, parce que on était sous. Je crois qu'on s'en rappelait tous les deux, mais je pense qu'on avait besoin un peu que ça travaille, qu'on y réfléchisse. Mmh. Et on en a reparlé un jour au téléphone, genre presque 3 mois plus tard, je dirais. Mmh. Et on s'est dit, ok, l'idée est toujours là, ça a fait du chemin dans nos têtes de part et d'autre. Est-ce qu'on mettrait pas les choses à plat et qu'on déciderait, enfin, qu'on en parlerait pas sérieusement? Et donc, on s'est donné rendez-vous pour manger ensemble une semaine plus tard. Mmh. Et on s'est dit, ok, pendant cette semaine, on réfléchit à tout ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui est important pour nous, comment est-ce qu'on le voit, comment est-ce que on gère les choses et tout ça, et on arrive avec tout ça, et on voit si ça match, et si on a encore besoin de temps de réflexion, s'il y a des points qu'on doit éclaircir, si on est plutôt d'accord, pas d'accord. Et donc voilà.
Et c'était pas trop un peu l'embrouglia mini au début, je pense que vous avez dû partir un peu dans tous les sens, non? Le temps d'arriver à synthétiser tout ce que vous vouliez.
En fait, pas tellement. On était assez d'accord.
Waouh, chouette.
On était assez d'accord et on avait surtout, on a beaucoup parlé ce jour-là de nos peurs, tu vois, de ok si on s'y met, de quoi t'as peur et de quoi moi j'ai peur et en fait sur le principe on était assez d'accord. Moi j'avais des Je me rappelle que je voulais, par exemple, je voulais pas vivre toute seule avec un nouveau-né. Je voulais pas assumer des nuits toute seule, voilà. Et il m'a dit, ok, bah on s'installe ensemble le temps qu'il faut. Enfin, et donc moi j'avais plus de trucs pratico-pratiques. Lui, pas du tout. Après, moi, j'ai une formation de sage-femme, donc lui, il était un peu en mode, bah, je te fais confiance, en fait. Tu sais, c'est quoi un nouveau-né? Moi, je sais pas du tout ce que c'est. Donc
ça doit être très rassurant.
Tu peux faire ça pour le suivi. Bah, on fait ça. Donc ça a pas vraiment été de la discussion. Mais ça a été plus une discussion de bah voilà, de quoi est-ce qu'on a peur, vers qu'est-ce qui nous angoisse si on décide de faire ce projet, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche, pour pas qu'on soit stressé quoi. Mmh.
Et alors du coup, bah, c'est vrai que toi t'es arrivée, t'avais l'air d'avoir déjà plus réfléchi à tout le côté pratique, donc à toute la mise en place. Est-ce que tu disais qu'il y avait des choses qui étaient incompressibles, on va dire, pour toi, notamment le fait de pas faire les nuits toute seule? Ça s'est concrétisé comment? Quelles étaient les obligations que tu as mises toi?
Et donc moi, la seule obligation que j'ai mise, c'était cette histoire de nuit. Je voulais pas assumer. Enfin, je suis sage-femme. Je sais ce que c'est un nouveau-né. Je voulais pas qu'ils viennent quand ça l'arrange. Et que moi, ben en fait, je galère avec toutes les nuits. Alors, ok, c'était moi qui allais être en congé de maternité, mais je voulais qu'on partage en fait le travail d'un nouveau-né. Et du coup, bon, à la base, le plan était que je devais m'installer chez lui parce que ça se mettait bien dans la configuration des appartements et tout ça à 7 mois de grossesse, et que je restais là tout mon congé de maternité, c'est-à-dire 5 mois. Donc je devais m'installer là à la base pour du coup 7 mois. Sauf que le Covid s'en est mêlé et que donc j'étais enceinte à la toute première vague en 2020 et j'étais enceinte de un peu plus que je venais de finir mon premier trimestre. Je pense que j'étais enceinte de 13 ou 14 semaines. Et du coup quand on a commencé à confiner, quand ils ont annoncé le confinement, tout le monde était un peu stressé et tout ça. Il m'a dit bah viens, ça va durer 2 semaines, viens à la maison, on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'était au mois de mars, et je devais déménager normalement au mois de juillet.
Ok.
Voilà. Et du coup, bah, je ne suis jamais repartie, puisque on a été confinés ensemble, et puis lui a pu un peu reprendre le boulot, mais moi, j'étais installée là-bas, on savait pas trop. Et du coup, j'ai fini par jamais repartir.
D'accord.
Donc je me suis installée toute ma grossesse là-bas, au final. Et puis moi, parallèlement à tout ça, j'avais vendu mon appartement pour acheter une maison. Et donc c'était un projet complètement parallèle, mais il se fait que ça se mettait bien. Mais sauf que mes travaux ont pris du retard, et donc au lieu de déménager aux 5 mois de notre fille, ben, au final, j'ai déménagé aux 14 mois de notre fille.
Donc, ah oui!
Le plan des 7 mois s'est transformé en presque 2 ans.
Attends, c'était 4 mois au départ. Hein.
Non, c'était 5 mois plus les 2 avant.
Donc, ah oui, pardon, excuse-moi, c'est moi qui m'a joué le compte, excuse-moi. Ah oui, non mais bon, de toute manière, ça fait un sacré delta, effectivement. Voilà, c'est que ça s'est bien passé si vous avez pu rester ensemble tout ce temps-là.
Oui, ça s'est très très bien passé. On s'est dit après le confinement, quand j'étais enceinte, que si on avait réussi à gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en confinement à nous deux, on allait pouvoir gérer un nouveau-né.
Ouais, il y a des chances.
Voilà. Mais du coup, on a réussi à gérer un nouveau-né. Bon, j'avoue que sur la fin, on avait tous les deux envie que je déménage parce que c'était pas notre projet, c'était pas voilà, on s'entend très bien, on est amis, mais on avait besoin de retrouver un peu notre espace personnel. Mais bon, il allait pas me mettre dehors et moi j'allais pas chercher un appartement pour les 3 derniers mois où mes travaux avaient pris un peu de retard. Et donc voilà.
Oui.
Mais ça s'est très bien passé et on s'est pas disputé, rien du tout. Juste on sentait qu'on avait besoin de récupérer un petit peu chacun son chez soi. Quoi.
Et lui, est-ce qu'il a mis des obligations?
Pas que je me rappelle. Lui, il avait une grosse inquiétude sur le fait que si je tombais enceinte et que je rencontrais quelqu'un et que en fait je le laissais pas du tout reconnaître l'enfant, donc lui il avait vraiment une grosse inquiétude par rapport à ça. Et il avait quand même une demande, c'est que il voulait pas d'un enfant handicapé et donc que si on le détectait pendant la grossesse, il voulait qu'on fasse une interruption médicale de grossesse. Donc ça c'est les deux points avec lesquels il est arrivé. Si je me rappelle bien, c'est peut-être qu'il y a un bout de temps maintenant, donc voilà, c'est les deux points importants dont je me rappelle.
D'accord. Oui, c'était quand même mûri de son côté aussi, parce que faut avoir le réflexe de se dire de quoi je suis capable, de quoi je suis pas capable. Tu sais, au départ, c'est pas forcément évident de fixer ça.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y avait déjà beaucoup réfléchi. je pense aussi qu'il avait déjà été dans un projet d'enfant avec quelqu'un avec qui il était des années avant, et que du coup, je pense qu'il, voilà, ça ne s'est pas concrétisé et tout ça, mais je pense qu'il avait déjà beaucoup réfléchi au fait qu'il voulait être papa. C'est toutes les personnes qui le connaissent et tout ça disent que ça fait des années qu'il dit que lui, dans la vie, il a envie d'être papa. Et donc, je pense que même si c'était pas forcément en coparentalité, je pense qu'il avait déjà réfléchi au sujet.
Mmh. D'accord. Et alors, est-ce que je peux te demander si vous avez établi un contrat écrit, enfin en tout cas pas moral, bon, je suppose qu'il y a un contrat moral, mais bon, en tout cas un contrat écrit pour tout ce qui concerne la garde et les choix que vous avez faits par rapport à ça, en fait, à la répartition de la garde du bébé?
Oui, donc on a écrit, Donc là, quand on s'est retrouvé une semaine après, donc comme je t'expliquais, pour un peu discuter ce dont on avait peur, est-ce qu'on voulait, on a déjà écrit un premier papier à ce moment-là, avec toutes sortes de choses, mais avec voilà ce sur quoi on était d'accord. On a déjà écrit un papier à ce moment-là. Et puis pendant la grossesse, on a fait un projet de convention de coparentalité, qui est à peu près la même chose qu'une convention de divorce pour la garde des enfants. Donc on s'est basé sur des modèles existants. Et on a fait un contrat. Alors notre contrat n'est toujours pas signé et validé. C'est la partie drôle, c'est qu'il est écrit depuis que je suis enceinte, mais en Belgique, parce que j'habite en Belgique, il faut passer devant le tribunal de la jeunesse pour qu'il soit validé. Et comme on s'entend bien et qu'on est d'accord et tout ça, on n'a toujours pas pris le temps de le faire. Et donc voilà, on a pris les renseignements il y a 2 semaines, donc on sait où est-ce qu'on doit aller pour voilà, mais on voudrait le faire parce que on s'entend très bien, ça se passe très bien, mais on sait jamais comment l'avenir va être, et donc là on s'arrange toujours à l'amiable, mais voilà, on sait pas, on a surtout peur tous les deux d'un futur conjoint.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander après.
Voilà. C'est ça. Donc c'est ce qui nous fait peur, c'est de se dire OK, mais s'il y a un conjoint qui arrive et qui veut déménager à l'autre bout de la terre, ou qui a des enfants dans d'autres écoles, dans un voilà, et donc on voudrait que ce contrat soit signé pour nous protéger par rapport à ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez établi au départ dans ce premier contrat ?
Alors, on a parlé de la garde. Donc, on a une garde à 50-50. Donc, on a établi les jours de garde et tout ça. On a établi tout ce qui est financier. Comment est-ce qu'on fait ? On fait tout à 50-50, mais donc on l'a écrit. Donc on a parlé, on a vraiment balisé tout. Hein. On a balisé par exemple les stages en été. On a parlé des vacances. On a parlé vraiment des trucs pratico-pratiques comme ça. Qui achète les vêtements, qui assume les frais médicaux, voilà.
Et peut-être l'éducation aussi, non ? Vous aviez des idées arrêtées là-dessus, non ? Pas encore.
Donc ce qu'on a mis quand même dans le contrat, c'est qu'elle devait être scolarisée à Bruxelles. Donc là, on habite pour l'instant tous les deux, au moins jusqu'à ses 12 ans. Donc pour un peu empêcher je m'en vais à l'autre bout de la terre et je veux la prendre avec. Donc, donc ça, on a écrit, mais on n'a pas écrit des lignes conductrices d'éducation et tout ça, parce que c'est un peu compliqué, et je pense qu'on part tous les deux du principe que à la base, on est d'accord, mais qu'en fait, il y a deux maisons, donc il y a deux fois des règles, et elle va apprendre, comme tous les enfants qui ont des parents qui sont pas ensemble, parfois on peut faire des choses chez maman et pas chez papa, et inversement. Donc,
Oui, puis c'était peut-être un peu prématuré de penser à l'éducation avant, avant même la conception de bébé.
Tout à fait.
Et dans ce contrat-là, donc, tu me parles du fait que vous aviez établi une garde à 50-50. Est-ce que... alors, évidemment, il s'est avéré que tu es resté longtemps chez le papa de ta fille, mais est-ce que si tu n'as été resté que le temps de ton congé mat, vous auriez commencé de suite en 50-50 ?
C'était l'idée, mais a posteriori, j'aurais jamais pu. Mais c'était
oui,
l'idée.
Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, je me dis, quand ils sont tout petits, c'est dur.
Mais écoute, oui, c'était l'idée. C'était l'idée qu'on commence à 5 mois et une garde à 50-50. Après, nous, on a une garde... pas où elle passe une semaine. Hein. On a une garde où on alterne en semaine. Donc, elle est une semaine, elle est 2 jours chez moi, et la semaine d'après, elle est 5 jours chez moi. Et donc, du coup, comme ça, il y a maximum des périodes de 5 jours où elle voit pas un des deux parents.
D'accord.
Mais n'empêche que j'aurais pas été capable de la laisser 5 jours d'affilée quand elle avait 5 mois. Ça, c'est sûr. Donc, mais il s'est vite avéré que mes travaux prenaient du retard, et donc je pense que ça nous arrangeait quand même bien tous les deux. Ça prenait un petit peu de retard. Peut-être pas autant, mais...
Oui. Mais au moins, c'était acté que ça allait, voilà, que
oui,
ça pouvait
ça.
que ça pouvait couler comme ça. D'accord. Et du coup, comment... Alors, parce que bon, après ce premier contrat, je pense que le deuxième, il n'est pas venu tout de suite. Il est peut-être venu après, peut-être même après la naissance ou pendant la grossesse. Donc, si on reprend dans la chronologie, est-ce que vous aviez acté dans ce fameux premier contrat du comment vous alliez concevoir ce bébé ?
Alors oui, on en avait bien sûr discuté. C'est une question qu'on nous pose tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Je me doute.
Et donc, on avait évoqué deux possibilités. Donc, soit on le faisait de manière naturelle, soit une insémination mais artisanale. Donc un pot, une seringue et voilà. Mais en plus, je travaille à l'hôpital, donc c'était pas très difficile d'avoir le matériel ni les informations pour le faire.
Oui, et puis tu maîtrises le cycle féminin, je pense.
Tout à fait. Et lui, il était pas trop chaud de cette option-là. Il avait l'impression que ça allait vraiment fort le bloquer. Et donc du coup, on a décidé de le faire de la manière naturelle, mais on avait bien précisé au début qu'on pouvait remettre ça en cause à tout moment. Mmh. Parce qu'on n'était pas du tout sûr que ça allait être facile et agréable et tout ça. Enfin, ça, on voyait un peu comme une corvée, il faut bien le dire.
Oui, oui, je me doute.
Et donc voilà. Mais donc du coup, on était parti là-dessus. Et donc on a commencé le premier cycle comme ça. Et au bout du premier cycle, on s'est fait, ok, ça c'était vraiment pas chouette. Pour plusieurs raisons, parce que clairement c'était hyper mécanique et c'était pas un bon moment à passer, mais aussi on était parti sur une organisation où, enfin, moi j'ai toujours ovulé comme une pendule, donc je savais très bien quand j'ovulais ça, mais on était parti sur une organisation où pendant les 4 jours autour de mon ovulation, on se voyait tous les soirs, on se faisait un petit resto, un petit film et tout ça. Mm-hmm. Et du coup, on s'est vu 4 ou 5 soirs d'affilée. On n'avait plus rien à se dire, on avait annulé des trucs avec nos potes, enfin.
Ouais.
Et donc c'était vraiment, non seulement c'était la corvée, mais en plus de ça, bah, on était contents de se voir le premier soir, on était moyennement contents de se voir le deuxième soir, le troisième soir on n'avait déjà plus rien à se dire, enfin.
Ouais.
Et du coup, après ce premier cycle, je n'étais pas enceinte, on a fait un petit débriefing, et moi j'ai dit, ok, moi je veux bien retenter le coup comme ça pour un deuxième cycle, mais alors, on fait nos vies classiquement, et on trouve un moment dans la journée où ça se met bien, même si c'est à minuit qu'on a été... on prend un repas avec nos potes et qu'on se retrouve chez l'un ou chez l'autre, mais on s'oblige pas à se voir parce que c'est le moment, ça mettra peut-être un peu moins de pression aussi, quoi.
Oui.
Ce qu'on a fait, et ce qui n'était pas beaucoup, beaucoup mieux. C'était moins pire, mais c'était pas beaucoup mieux.
D'accord.
Et donc, on a refait un débrief à ce moment-là en disant, OK, on va passer à la méthode artisanale, d'insémination artisanale, mais sauf que j'étais enceinte, et donc, du coup, on n'a jamais dû avoir de troisième cycle.
D'accord, ok. Donc, t'es tombée enceinte sur le deuxième cycle. Mais exactement. Vous en aviez parlé avant que tu saches que t'étais enceinte.
Oui, oui, on en a parlé à la fin de l'ovulation. On en a parlé, on a dit, non, mais en fait, ça va pas le faire. Je crois que le dernier jour de mon ovulation, il partait en vacances. Et moi, j'ai dit, non, mais en fait, on en reparlera quand tu rentres de vacances, mais ça va plus le faire. Il n'y a pas moyen.
Oui. Non, je comprends complètement. Et lui était d'accord avec ça?
Lui était assez d'accord avec ça. Je pense que c'était pas très drôle, ni pour l'un, ni pour l'autre.
Ouais, je me doute. Et tu as découvert ta grossesse au bout de 14 jours, je suppose, avec un test de grossesse classique?
Tout à fait.
Alors?
Alors, c'était très drôle, parce que donc, moi, j'ovule hyper bien, hyper ponctuellement, je sais bien quand j'ovule, ça, je le sens bien, et je suis réglée tous les 27 jours, depuis des années et des années. Et donc, 27e jour, je ne suis pas réglée. Du coup, je me dis, oh, putain, je suis peut-être enceinte. Donc, 28 jours, le 28e jour, le matin, donc je lui avais dit la veille, écoute, je suis pas réglée, on s'emballe pas, ça arrive, mais demain matin je fais un test de grossesse. Et du coup le lendemain matin je fais un test de grossesse et je me dis, ah bah c'est bon, il est négatif, et je commence à pleurer parce qu'il était négatif. Et puis je le regarde et je me dis, ah mais en fait il est positif. Et du coup,
rassurant, parce que même les sages-femmes ne savent pas lire un test de grossesse.
Non, mais j'étais trop rassurant. Oui, mais oui, tout à fait. Et du coup je l'appelle. Donc à 7h du matin, je l'appelle, lui, il voit que je l'appelle à 7h du matin, donc il pense bien qu'il savait déjà ce que j'allais lui dire. Et donc je lui dis, c'est positif, mais c'est faiblement positif parce que j'ai pas vraiment vu que c'était positif d'abord. Il me dit, ok, mais du coup quoi, ça veut dire quoi? Ben je sais pas. Il me dit, mais c'est sage-femme dans l'équipe là.
C'est bon ça.
Et donc du coup je lui envoie une photo et il me dit, ben je sais pas, on voit hyper bien en 2 barres, ça veut dire quoi faiblement positif? Ben, je sais pas, c'est juste que je l'ai pas vu, alors je me fais pas confiance.
Bah, déjà, c'était rassurant que lui les voit, parce que des fois, tu sais, c'est vraiment tellement faible que des fois, tu te dis, j'invente, il n'y a pas de marge.
Non, non, mais donc, c'était très, pas du tout faiblement positif, c'était bien positif.
C'était positif.
C'était juste que j'étais tellement stressée et je voulais tellement être enceinte que, en fait, je crois que mon cerveau a dit que c'était négatif avant de s'emballer, enfin, tu vois.
Ouais, je comprends.
Voilà.
Et lui, comment il
sort de test de grossesse? Bah lui, il était, du coup, avec cette annonce un peu particulière, il était un peu là, bah, ok, on doit se réjouir, on doit pas se réjouir, évidemment, moi, j'étais là en mode, je sais pas.
De panique.
Oui, c'est ça. Mais du coup, une de mes meilleures amies, qui est sage-femme aussi, est venue me faire une prise de sang le soir même, et donc le soir même, on avait un résultat qui disait que j'étais vraiment enceinte, et c'est vraiment à ce moment-là, que lui, il a dit, ah ok, et donc, mais je pense qu'il a passé une journée un peu particulière parce qu'avec mon annonce, c'est faiblement positif.
Peut-être pas.
Je l'avais pas aidé sur ce coup-là, quoi.
Non, effectivement. D'accord. Et alors, du coup, vous êtes projetée tout de suite, je suppose.
Oui. Alors que, enfin, voilà, moi, je suis sage-femme, c'est pas comme si je savais pas qu'il peut se passer encore plein de choses. Mmh. Mais oui, on s'est tous les deux projetés super vite. On a été manger au resto et on était là genre, on a trop envie de faire des projets, parler de prénoms et ça. J'étais ensuite enceinte de 2 semaines, donc.
Oui, mais on va en parler du choix du prénom parce que là, c'est pas un choix de couple là, donc c'est encore autre chose.
Oui.
Mais bon, je pense que ça arrive quand même après.
Oui, tout à fait. On n'a pas décidé à ce moment-là.
Non, je me doute bien. Et alors, comment ça se passe pour toi, la grossesse? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est ce premier positif qui donne votre petit bébé ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Donc,
ah, super.
C'était une grossesse qui s'est passée super bien. Vraiment, bon, à part ce Covid qui nous a tous stressés, donc parce que,
ouais,
comme je disais plus tôt, hein, j'étais enceinte de 13 semaines et je travaillais dans un hôpital. Et du coup, dans mon hôpital, on n'écarte pas les femmes enceintes. Donc, on est censé travailler jusqu'à 7 mois et demi de grossesse. Mmh. Et du coup, c'était vraiment le gros stress. Ma généraliste me disait, je veux plus que vous alliez travailler. On connaît pas ce virus. On sait pas ce que c'est. Mon hôpital disait, bah, on n'a pas assez d'informations pour dire que c'est dangereux. Donc, venez travailler. Là-bas, on n'a pas assez d'informations pour dire que c'est pas dangereux. Et donc, à part ces 2-3 semaines-là où ça a été très, très stressant, et puis au final, ma généraliste a dit, mais en fait, moi, j'assume pas de vous envoyer au travail, je vous mets en certificat jusqu'à la fin de votre grossesse. Mm-hmm. À part ces 2-3 semaines-là qui ont été stressantes, sinon, j'ai vraiment eu une grossesse de rêve, quoi. Vraiment, hyper, mm-hmm. super bien passé. J'ai vomi 2 fois sur toute ma grossesse. Enfin, voilà.
Ouais, vraiment, la grossesse idéale.
Rêve. Ouais.
Bon, après, c'est sûr que dans le contexte Covid, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir une grossesse de rêve parce que je suppose qu'il y a plein d'autres choses qui tournent dans ta tête, notamment vu ce que tu as dû voir toi au niveau des accouchements, tu as dû un petit peu anticiper, et je sais pas d'ailleurs si vous aviez acté, on va en parler, de la présence du père de ta fille ou pas pour l'accouchement. Mais du coup, oui. Pour toi, ça a dû un peu travailler quand même.
Mais en fait, pas trop, parce que donc dans le projet de base, moi j'avais dit que si ma grossesse s'est passée bien, je voulais accoucher à domicile. Et
d'accord.
Donc en fait, on est parti là-dessus. Donc lui il m'a dit, bah écoute, t'es sage-femme, moi j'ai pas d'avis sur la question. Si tu me dis que c'est safe, on le fait. Si on se fait suivre bien par quelqu'un de compétent, une sage-femme compétente, bah on le fait, si c'est ça que t'as envie. Donc lui il m'a complètement suivi là-dessus, les yeux fermés.
C'est classique en Belgique ou pas?
Pas du tout.
D'accord.
Plus qu'en France.
C'est pas compliqué.
Oui, non, mais c'est ça. Donc c'est moins. Il y en a un peu plus qu'en France, mais par contre, il a quand même lui. Enfin, tout le monde, on doit quand même se défendre beaucoup et se justifier tout le temps. Et donc lui, il m'a suivi les yeux fermés, mais après, il a assumé, surtout auprès de sa famille, qui n'était pas forcément hyper chaude, de si on va avoir un enfant à domicile. Et donc il a été quand même plutôt cool là-dessus, parce que. Mais oui. Ok, c'est ça que tu veux, on le fait. Mais après, il a assumé les conséquences avec quoi.
D'accord.
Et donc, du coup, la question de avec le Covid, est-ce qu'il allait pouvoir être là, pas être là, se posait pas en fait. C'était comme on voulait, puisque c'était à la maison.
C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que du coup, tu avais envisagé, parce que quand même si tu es sur un accouchement à domicile, des fois, on envisage de partir à la maternité au cas où. Vous en aviez parlé de ça ou pas?
Tout à fait, et c'est ce qui s'est passé au final, mais donc oui, on en avait parlé, mais En fait, l'avantage d'être sage-femme, c'est que moi, j'avais dit ou j'accouche à la maison ou j'accouche dans ma deuxième maison, c'est-à-dire dans mon service où je travaille.
Oui, donc c'est vrai qu'il y avait...
Et donc, du coup, en fait, la question ne se posait pas. Déjà, dans mon hôpital, on n'a jamais refusé les papas pour l'accouchement pendant le Covid.
Ça, c'est super bien.
Donc, il n'y a jamais eu de refus d'accompagnant, même pas forcément le papa, en fait. Que ce soit l'autre parent ou même les femmes seules qui viennent avec un accompagnant, il n'y a jamais eu de refus. Donc, toutes les femmes ont continué à pouvoir accoucher avec au moins un accompagnant. Mm-hmm. Et en plus de ça, moi, je travaillais là-bas, donc il n'y avait juste aucun doute que il allait pouvoir venir si je voulais qu'il vienne. Et,
C'est vrai que tu avais cet avantage-là.
Oui.
Et pour toi, ça a été une évidence que ce soit lui qui soit avec toi ou tu t'es posé la question de savoir si tu te ferais accompagner par une personne de ta famille?
Non, c'était une évidence qu'il soit là. C'était hors de question qu'il subisse pas avec moi.
Non, mais des fois, tu sais, c'est une question de, pour le coup, d'intimité. On se pose, enfin voilà, on peut se dire, ouais, non, mais peut-être pas à ce moment-là, quoi.
Non, mais c'était une évidence. Et je pense qu'on a, bon, c'est sûr qu'on a passé tous les stades de l'intimité possible et imaginable. Voilà, rien que d'avoir choisi de faire une conception naturelle.
Oui, bien sûr.
Et donc, oui, non, pour moi, c'était pas envisageable que ce soit quelqu'un d'autre. Je voulais pas de quelqu'un d'autre, d'ailleurs.
Oui, je comprends. Et alors, est-ce que pendant ta grossesse, votre grossesse, du coup, vous avez très certainement dû en parler, en tout cas expliquer que c'était un coparent et non pas un parent auprès des professionnels. Est-ce que ça a été bien compris, bien accepté?
Oui, ben, auprès des professionnels, on l'a pas beaucoup expliqué parce que on l'a expliqué à notre sage-femme qui nous suivait, qui elle a dit ok, pas de problème. Juste parfois, on se demandait si elle avait vraiment bien compris et tout ça, parce que parfois elle nous disait des trucs, on était là genre, mais on n'est pas ensemble. Oui, je sais, mais la tournure de... Non, mais c'était pas vraiment un réflexe, parfois la tournure de ses phrases, voilà, on comprenait pas toujours, mais on lui rappelait un peu de temps en temps, elle disait, oui, je sais, c'est bien ça que je voulais dire, ok. Et après, on n'a pas vu grand monde d'autre, en fait, parce qu'on a été faire nos échographies à l'hôpital, mais encore une fois, en fait, ça, par contre, pour les échographies, il y en a certaines où il n'a pas pu venir parce que c'était le Covid. Mm-hmm. Et moi, je les connaissais tous, c'était tous les gynécos avec lesquels je travaille régulièrement. Et donc, du coup, en fait, personne ne posait de questions parce qu'ils me connaissaient. Ils étaient tous en mode « Ah, mais t'es enceinte, toi ? Ah, bah, trop chouette !»
Excellent.
Donc, au niveau des professionnels, on n'a pas dû beaucoup expliquer. Voilà, juste la sage-femme qui nous a suivis à domicile, et puis c'est à peu près tout. Et elle y voyait absolument aucun problème.
Oui, oui. Et au niveau de ta famille, enfin de ta famille, de sa famille d'ailleurs, est-ce que vous avez dû expliquer? Est-ce que ça a été bien accueilli comme parentalité, comme type de parentalité?
Ça a été super bien accueilli dans les deux familles.
Ah super.
Ouais, c'était super. Franchement, moi, j'ai annoncé à mes sœurs et ma maman que j'étais enceinte. Elles étaient juste en train de pleurer. Et puis, au bout de genre 5 minutes, elles m'ont dit, mais en fait, c'est qui le papa? Donc, c'est venu 5 minutes après. Vraiment, c'était genre, ah, t'es enceinte, c'est trop bien, et ça. Donc, et puis, je leur ai dit, elles étaient là, ah, oh, bah, cool, si ça te va, c'est bien. Et dans sa famille, ça a été super bien pris. Lui, il avait dit à son papa qu'il essayait de faire un enfant en coparentalité avant que je sois enceinte. Moi, je l'avais pas du tout dit. Et ça a été super bien pris. Et juste, voilà, ses grands-parents comprennent toujours pas. Donc, à chaque fois qu'ils me voient, ils me demandent, et c'est pour quand le deuxième? Et vous voulez pas vous marier? Et je suis là, genre, mais en fait, je vais encore vous réexpliquer, mais... Donc voilà, à part ses grands-parents qui, ben voilà, c'est une autre génération et ils comprennent pas vraiment. Oui. Ça, c'est ses grands-parents paternels. Sa grand-mère maternelle lui a dit, j'ai bien compris votre truc, hein, mais mariez-vous et puis vous faites chacun vos petites affaires à droite à gauche et puis c'est comme ça, c'est bien. Hein.
C'est une autre génération.
Voilà, c'est ça. Mais à part ça, c'est pas bien méchant en fait. C'est juste. C'est pas dans l'univers des possibles, dans leur éducation qu'ils ont eu il y a 60 ans, 70 ans.
Donc... Mais oui, non, mais bien sûr.
Voilà, mais donc ça a été très bien pris dans les deux familles.
Bon, après, si ça se trouve, il y aura un deuxième en coparentalité, et ça peut s'entendre, tu vois. Mais c'est juste que vous serez toujours pas mariés, quoi.
Non, c'est ça.
Et alors, du coup, pendant ta grossesse, vous avez établi un deuxième contrat, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, on a fait deuxième contrat. Ouais. Bah, en fait, ce deuxième contrat, il était à peu près le même que le premier, mais avec des termes juridiques et qui avaient une valeur légale au nom de la loi roi.
D'accord. Vous êtes passé par un professionnel?
Non, on a pris des canevas.
D'accord.
sur un site de notaire belge. Donc voilà.
Ouais, donc quelque chose d'assez sécure.
Oui, et j'ai aussi des amis qui sont séparés, qui ont des enfants qui sont séparés, qui avaient fait des contrats devant le juge de la jeunesse, et donc j'avais demandé leur modèle de qu'est-ce qu'ils avaient écrit dedans pour un peu avoir une idée. Donc on a pris juste un canevas. Mmh. Voilà, pour officialiser les choses, quoi.
D'accord. Et donc ça a officialisé, pareil, l'alternance de garde et l'alternance au niveau des finances aussi, c'est ça ?
Oui. Oui.
Ok. Et c'est tout ce que vous aviez inscrit dedans ?
Oui, bah oui, c'est ça. Mais donc ça a été plus la première chose qu'on avait écrite au tout début, enfin avant que je tombe enceinte, c'était vraiment voilà, on veut faire 50-50, on voudrait que les frais soient de moitié-moitié, ce genre de choses. Mais c'était très vaste. Et là, on a vraiment dit, ben voilà, les semaines impaires, c'est comme ça, les semaines paires, c'est comme ça, les vacances commencent à partir de 18h, l'enfant doit être amené, enfin, vraiment les trucs très juridiques.
Ouais.
Pour que si un jour on soit très fâché et que, voilà, ben, on puisse dire, non, mais en fait, les vacances, elles commencent à 18h et pas à 17h, et enfin, voilà, c'est plus des trucs.
Ouais, ça doit pas être simple hein, quand même. Même si tout ça, on sait que vous le faisiez dans un contexte complètement apaisé et serein, tu vois. Mais malgré tout, ça doit être assez inconfortable comme papier à faire.
Oui, c'est vraiment pas chouette parce qu'en fait, c'est un papier qui sert à si jamais on dispute. Donc c'est
à envisager le pire, ouais.
Envisager le pire tout le temps. Et se dire, ok, est-ce qu'on est obligé d'aller autant dans les détails? Et puis quand on en discute, on dit, ah ouais, mais en fait, si toi, tu décides que tu veux plus payer ça, ben ouais, il faut le noter. Ah ouais, mais tu crois qu'on va se retrouver à être méchant comme ça? Ben, donc c'est vraiment, en fait, imaginer le pire de ce que l'autre pourrait faire, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais en même temps, c'est pour se protéger soi, mais ça doit être très, très bizarre.
Ouais, c'est pas du tout chouette.
Ouais, je me doute bien. Bon, en tout cas, une fois que ça a été fait, c'était fait, quoi.
Ouais. Tout à fait.
Et toujours pas signé, a priori, par contre.
Non, non, il est toujours pas signé.
Mais au moins, c'est écrit.
Oui, mais ça n'a aucune valeur légale. Si maintenant, demain, on se dispute, ben, en fait, on n'a aucun papier qui prouve ce qu'on a décidé, quoi. Enfin, si, on a ce papier, mais il est signé ni de l'un ni de l'autre, ni du juge, donc.
Ouais, après, je pense que dans ce cas-là, logiquement, vous êtes des personnes intelligentes et donc vous signerez ce papier-là, quoi. Il n'y aura plus à réfléchir à tout ça, c'est acté, c'est on signe, quoi.
Ouais. J'espère.
On va croiser les doigts.
C'est ça. Mais non, mais en vrai, ça devrait pas arriver d'ici demain et il faut qu'on s'en occupe là maintenant.
Oui. Et alors, cet accouchement, alors? Comment ça s'est passé? À domicile ou pas? A priori, t'as répondu un peu en partie à la question, ouais. Mais.
Et donc, ça a commencé à domicile, comme prévu, avec la date où j'avais dit que j'accoucherais. Ça arrangeait tout le monde, dans le planning de tout le monde, ça arrangeait. Donc, mes deux sages-femmes étaient là, le papa était là, en congé, au début de ses congés, enfin, tout super bien. J'avais déjà couché la nuit du 12 au 13, je me suis mis en travail à 18h le 12.
Mais tu connais ton corps à ce point-là, toi?
Je sais pas, depuis que je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. En fait, ça arrangeait tout le monde et ça se mettait super bien et tout. Et donc,
oui,
moi, j'ai été obéissante. Oui, mais moi, j'ai été obéissante. Donc,
Waouh. Franchement, chapeau.
Et mais du coup, voilà. Mais par contre, ça a été beaucoup plus long que prévu. Et donc, du coup, au lieu d'accoucher dans la nuit du 12 au 13, j'ai accouché à 20h le 13. Donc, j'ai eu 26 heures de travail.
Waouh. Ouais, d'accord.
Et après 20 heures de travail, ça n'avançait pas fort et c'était vraiment long. On venait se faire une nuit blanche et j'ai dit, OK, on y va. Moi, je fais une péridurale. Et donc, on a été transférés pour une péridurale.
Ouais, mais tu m'étonnes, au bout de 20 heures, c'est difficile de continuer à encaisser, hein.
Ben, c'était surtout le fait que, ben, comme tout le monde, hein, tu sais pas quand ça va finir. Moi, on m'aurait dit encore 6 heures, j'aurais tenu encore 6 heures. Mais la perspective de, si ça se trouve, c'est encore 12 heures ou 20 heures, mais on sait pas quand. Mm-hmm. C'est plus compliqué, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et donc, voilà. Mais donc, du coup, on a été à la deuxième maison. Et, ça, c'est vraiment le côté super chouette de travailler là, c'est que ma sage-femme a appelé dans la voiture en disant « bah j'arrive avec Mélissa, et qui est-ce qui travaille ?» Et donc, elle m'a fait une liste de prénoms qui travaillaient. J'ai dit « ok, je vais accoucher avec elle. » Et je suis arrivée, la chambre était prête, mon dossier était sorti, ils avaient déjà appelé l'anesthésiste. Bon, après, l'anesthésiste était occupée, parce que c'était un dimanche, et il était tout seul dans l'hôpital, donc ça a mis un peu de temps, mais voilà, le vrai traitement VIP, super chouette.
Ah, super. Bon, en même temps, c'est sûr que tu pouvais être que rassurée avec les personnes que tu connaissais.
Oui, oui, c'est ça.
C'est un peu des fois, tu sais, le truc hyper, hyper perturbant, c'est que quand tu te rends à l'hôpital, tu sais pas qui est de service, tu sais pas si tu connais la personne qui va t'accoucher. Des fois, tu l'as jamais vue, voire souvent, tu l'as jamais vue.
Tout à fait.
Donc, c'est pas super rassurant pour les futurs parents.
Ben, c'est pour ça que moi, je voulais accoucher à domicile. C'est le côté un peu personnalisé de la relation que tu crées pour le papa. Mais après, c'est sûr que quand tu travailles à l'hôpital, t'as la chance de quand même connaître tout le monde. Mais lui connaissait personne. Et d'ailleurs, lui, il a raconté que ça avait été super stressant, ce transfert pour lui.
D'accord.
Ouais.
Parce qu'il était en crainte pour toi ou parce qu'il savait pas à quoi s'attendre?
Un peu les deux, je pense. Enfin, après, c'est dur de raconter pour lui, mais de ce que j'ai compris, c'est que tout d'un coup, tout allait bien. Ça faisait 20 heures qu'on était à la maison, tout le monde était zen, voilà. Et quand moi, j'ai dit que je voulais ma péridurale, il y a eu un mouvement rapide pour déménager. Et donc lui, et puis on est arrivé à l'hôpital et on n'est pas passé aux admissions, on m'a mis directement dans une chambre, et donc lui en fait il a cru que il y avait quelque chose qui se passait pas bien mais qu'on lui disait pas.
D'accord.
Et quand on a débriefé avec la sage-femme après l'accouchement, elle a dit ah ben non, c'est pas du tout qu'il se passait quelque chose qui allait pas, c'est juste que tout à coup Mélissa elle voulait plus avoir mal et donc il y avait pas de raison de perdre une minute pour qu'elle souffre encore.
Oui.
Et du coup, on a été efficace. Et puis, comme elle travaille là, ben, on n'est pas passé aux admissions et on a fait tout en mode VIP pour que ça évite qu'elle soit vite soulagée. Mais lui, il a vraiment vécu comme tout à coup, on était hyper zen depuis 20 heures à la maison. Et en une demi-heure, on était de l'autre côté et tout avait changé et tout ça. Et donc, il a vraiment eu peur, en fait.
Oui, je comprends.
Et donc, voilà. Et donc, je pense... Mais une fois qu'on était sur place, je pense que ça a été mieux. Mais je pense que le transfert a été vraiment dur pour lui.
Oui, je comprends. Après, c'est sûr que toi, t'étais pas en état de lui expliquer quoi que ce soit, à mon avis.
Absolument pas.
Et puis, ta sage-femme, du coup, elle a voulu faire avancer les choses, elle s'occupait de toi, quoi, elle s'occupait pas de lui.
C'est ça.
Ok, je comprends complètement. Et du coup, ça a duré combien de temps après? Tu m'as dit 26 heures au total, c'est ça?
Ouais, mais donc du coup, le temps du transfert et tout ça, ça faisait 21 heures que j'étais en travail, l'anesthésiste a mis encore une petite heure à arriver, et puis, 4 heures plus tard, on avait notre bébé dans nos bras.
Waouh! Donc ça a été vite finalement, la péridurale a aidé.
Oui.
D'accord. Et alors, vous aviez réfléchi au prénom pendant la grossesse?
Oui. Mais donc du coup, comme je l'ai déjà dit, on a été confinés longtemps ensemble.
Ça permet de...
Exactement.
D'épurer pas mal de sujets.
Exactement. Et donc du coup, assez vite, la première semaine du confinement, on s'est dit, bon, on n'a rien d'autre à faire, on va réfléchir à des prénoms. Et donc nous, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Moi, je voulais pas savoir, et lui voulait savoir, et du coup, après réflexion de personne n'avait d'argument, juste on avait envie ou pas envie de savoir, on a tiré à pile ou face.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai gagné, donc on n'a pas su le sexe du bébé, donc on a cherché deux prénoms. Mais lui, depuis le jour de ce test de grossesse, plus ou moins positif, il disait qu'on attendait une fille.
D'accord, donc, il avait cette sensation-là.
Ouais. Et donc il voulait pas. Au début, il disait on va pas chercher le prénom de garçon, on sait pas, mais c'est une fille. Et j'étais là, on sait pas, mais c'est peut-être un garçon.
Oui, au cas où.
Et donc moi j'avais déjà une petite liste dans mon téléphone là, que j'avais fait au tout début de ma grossesse. Et donc la première semaine du confinement, il m'a dit t'as déjà réfléchi à des prénoms? Je dis j'ai fait une petite liste. Du coup je lui ai lu ma liste et il m'a arrêté sur un prénom et il m'a dit si c'est une fille, elle s'appellera comme ça. Je lui dis attends, on peut y réfléchir. Il me dit non, il fallait pas le mettre dans ta liste si tu l'aimais pas. Ce prénom-là.
C'est bon, c'est fait. T'as plus le choix.
C'est ça. Et donc il m'a dit ça. Et j'étais là. Ok, il faisait partie de mes deux préférés, mais on peut pas en discuter. Il m'a dit non, il fallait pas le mettre dans ta liste si tu voulais pas le mettre, si tu l'aimais pas, il fallait pas le mettre. Elle s'appelle comme ça, pas autrement. Là, ok.
Ok. Bon, alors pour le garçon, je fais une liste plus plus réfléchie.
Non, et du coup pour le garçon, on a eu longtemps deux prénoms. C'était moins catégorique. Et vers la fin de la grossesse, on s'est décidé de prendre des deux, mais le prénom de fille n'a plus changé à partir de ce moment-là, quoi. Donc, j'étais enceinte de 14 ou 15 semaines.
Wow, et ça a plus
été négociable après. Et wow. Moi, je suis revenue un petit peu avec l'autre prénom que j'aimais bien aussi, le deuxième de mes deux choix. Et elle était là, non. J'étais là, heureusement que je l'aimais vraiment bien, ce prénom.
C'est clair. Lui, il était vraiment bloqué dessus.
Oui.
C'est ouf.
Donc voilà. Et donc notre fille s'appelle comme ça.
Ok. Waouh. Et alors à l'accouchement, pas de changement de prénom? C'était sûr.
Donc à l'accouchement, pas de changement de prénom. Mais par contre, l'histoire très drôle de l'accouchement, c'est que moi, j'ai accouché pendant 26 heures.
Mm-hmm.
Et donc il fallait pas du tout faire confiance à une femme qui vient d'accoucher après 26 heures. Voilà.
Ouais, non, je crois que...
Ils m'ont laissé regarder. Moi, j'ai dit que c'était un garçon. Et donc, du coup...
mais, non, mais en plus, t'es sage-femme. Donc, c'est très rassurant parce que nous, des fois, on se trompe pas.
Oui, non, non, mais donc, voilà. Et donc, là, le papa, il a vu en même temps que moi, il a dit, OK, moi, j'avais l'impression que c'était une fille, mais elle est mieux placée, c'est elle qui regarde et elle est sage-femme, donc, OK, on va lui faire confiance. L'autre sage-femme qui était là aussi depuis 26 heures avec nous, bah, elle s'est dit, OK, j'ai mal vu, je croyais que c'était une fille. Et la quatrième personne dans la pièce, elle a cru que je faisais une blague. Elle me connaît bien, elle s'est dit, elle fait une blague. Mais du coup, on leur a dit le prénom de garçon et tout, et donc pendant 10 minutes, moi je disais il, jusqu'à un moment donné où j'ai dit au papa, t'es pas trop déçu en fait, parce que t'as dit toute la grossesse que c'était une fille, et en fait on a un petit garçon. Et là, la sage-femme qui pensait que je faisais une blague, elle s'est dit, OK, là il y a un problème, ça fait 10 minutes qu'elle reste coincée dans sa blague, et elle dit, attendez, mais on va quand même vérifier. Donc elle vérifie, elle dit, mais en fait les gars, vous savez que c'est une fille? Et moi c'est là, hein, quoi?
Vous avez eu un petit garçon pendant 10 minutes.
On a eu un petit garçon pendant 10 minutes. Et donc, on a utilisé ce prénom pendant qu'on avait quand même fini par choisir. Même si lui n'arrêtait pas de dire qu'on avait une fille. On l'a utilisé 10 minutes.
Ah, c'est drôle. Ouais. C'est très, très drôle. Et alors, comment t'as réagi?
Ah, ben moi...
moi une fille, un garçon, c'était pareil,
oui,
quoi.
Oui, c'est ça. Donc, et même, en fait, quand j'ai vu que c'était un garçon, j'étais un peu en train de me dire... En fait, je me suis tellement projetée que c'était une fille, parce que lui, il le disait tout le temps, quoi. Tout le temps, il disait, on attend une fille, on attend une fille. Arrête-toi de parler comme si c'était un garçon, on attend une fille. Donc, quand j'ai vu que c'était un garçon, j'étais là, on attend un garçon, en fait. Et j'étais surprise. Et donc, quand je suis redevenue une fille, c'était ma projection, en fait.
Oui, c'est vrai que t'avais pas... Et lui, du coup, il devait être super content. Enfin, il devait...
Non, parce que lui, c'était pas important pour lui non plus, c'était juste, il sentait que c'était une fille. Mais si ça avait été un garçon, il aurait été ravi aussi.
Oui, oui. Ah, c'est fou. Oui. C'est fou. Il avait la bonne intuition.
Oui.
D'accord. Et alors, du coup, retour à la maison au bout de quelques jours, je suppose assez rapidement avec le Covid.
Retour à la maison très, très vite. Donc, on avait dit que comme si ça se faisait pas à la maison, on voulait être à la maison le plus vite possible, donc 4 heures après. Donc, il y a 4 heures de surveillance obligatoire à l'hôpital. Mais j'ai accouché à 20h et on se voyait mal à minuit à mettre ce nouveau-né dans un maxi cosy pour prendre un taxi pour rentrer.
Ouais.
Et du coup, on a juste dormi à l'hôpital et on est parti le lendemain fin de matinée. Le temps de voir le pédiatre et de faire les papiers de sortie, on est parti à la veille, un peu plus que 12 heures de vie, quoi.
D'accord. Et depuis, donc ça fait 17 mois, comment ça se passe la cohabitation, la colocation entre vous deux, trois maintenant?
Ben donc ça s'est super bien passé, donc là ça faisait donc on a vécu 14 mois ensemble et puis là ça fait 3 mois que j'ai déménagé. Et franchement bien, enfin comme des jeunes parents avec un bébé, quoi. On a pu trouver un peu notre rythme, mais plutôt bien. Les 9 premiers mois on a un peu fait au feeling sur les gardes, sur qui s'occupait du bébé, parce que moi déjà j'étais en congé pendant 5 mois. Après, on habitait au même endroit, donc même si on n'était pas ensemble, c'était un peu comme ça se présentait. Mmh. Et puis quand on a eu 9 mois, c'était l'été, et donc du coup, il est parti en vacances un peu avec elle, pas trop longtemps, mais voilà, moi je suis un peu partie aussi en vacances avec elle. Et là, on a commencé à vraiment instaurer notre garde comme maintenant, comme on a maintenant qu'on habite plus ensemble, dans l'idée de se dire, en fait, même si on habite sous le même toit, pas besoin de demander à l'autre, ah tiens, je voudrais aller manger avec des copines. Est-ce que tu peux t'en occuper? Non, en fait, ces jours-là, c'est pas ma garde. Moi, je prévois des trucs avec mes copines. Ce week-end-là, c'est pas mon week-end. Si je veux faire des trucs, partir en week-end ou quoi que ce soit. Voilà. Oui. Et donc ça, on a fait à partir de ces 9 mois. Donc de ces 9 mois à ces 14 mois, on a vécu, on continue à cohabiter, mais on avait vraiment ce système de garde. On avait déjà notre garde alternée, quoi.
Ouais, ça vous a permis de le rôder tout en étant à la maison, quoi.
Oui, tout à fait. Tout en continuant à voir notre fille presque tous les jours, mais d'apprendre un peu cette vie de garde partagée, quoi.
Voilà. Et là, depuis 3 mois, c'est acté.
Oui. Donc, depuis 3 mois, j'ai déménagé. Et donc, du coup, on le fait, voilà. La garde a vraiment pris forme.
D'accord. Et alors, est-ce que ça ressemble à ce que tu t'étais imaginé? Est-ce que cette coparentalité, c'est le mode de parentalité que t'envisageais?
C'est une question qui est dure, parce que, en fait, je sais plus trop ce que je projetais, évidemment. On a vécu tellement de choses entre les deux que voilà. Après, dans les grandes lignes, oui, je pense que c'est ce que j'espérais, en tout cas. j'avais envie, quand on a créé le projet, que ce soit fluide et qu'on puisse toujours adapter nos gardes s'il y a quelque chose, qu'on puisse être, voilà, qu'on puisse rester amis et être vraiment une équipe autour de cet enfant, et c'est vraiment le cas. Mmh. Après, je suppose que dans les détails et tout ça, et c'est plus forcément ce que j'avais projeté, mais dans les grandes lignes, c'est ça que je voulais, et pour l'instant, on s'en sort vraiment bien par rapport à ça, donc c'est super chouette.
Mmh. Oui, parce que je me dis que toi, en étant sage-femme, tu dois avoir des horaires complètement décalés à certains moments. Donc, ça doit pas être simple non plus pour faire garder le petit, et, enfin la petite, pardon, en l'occurrence. Et est-ce que dans ce cas-là, vous vous organisez entre vous ?
Figure-toi que j'ai déménagé en même temps que j'ai changé de travail.
D'accord.
Et du coup, je suis toujours sage-femme et je travaille dans un service de consultation. Et donc, je travaille du lundi au vendredi
sur des horaires
de consultation depuis 4 jours avant le moment où j'ai déménagé. Donc, le hasard a fait que...
ouais. Ça a tout simplifié.
Tout à fait. Mais avant ça, donc quand on avait déjà, quand j'habitais encore là-bas et qu'on avait déjà mis notre garde en place, en fait, moi, je demandais à ma chef de travailler, de faire mes nuits, de faire mes soirs et tout ça, les soirs où je l'avais pas. Et donc, d'accord, je calais en fait tout mon horaire sur l'horaire de garde, quoi.
D'accord. Et est-ce que je peux te demander si tu envisagerais justement un numéro 2 en coparentalité, alors pas forcément avec le papa de ta fille, mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais, que tu referais? Ou pas du tout?
Je sais pas. C'est une grande réflexion du moment pour moi en ce moment, parce que je sais qu'il y aura un deuxième un jour dans ma vie, mais comment, je ne sais pas. Mm-hmm. En tout cas, avec le papa, on n'en a jamais parlé. Mm-hmm. De ce que je sais, ça date d'il y a avant qu'on décide de le faire. Je sais que lui, a priori, il en voulait qu'un enfant. Mm-hmm. Mais on n'en a jamais rediscuté. Ça, c'est jamais revenu sur le tapis, donc on n'en a jamais rediscuté. Donc je ne sais pas du tout c'est quoi sa position par rapport à ça. Et est-ce que je referais en coparentalité? Oui, franchement, oui, ça se passe tellement bien que il y a pas de raison. Après, j'estime qu'on a eu beaucoup de chance aussi, quoi. On s'est vraiment bien trouvé, on est d'accord sur plein de choses, les choses sont fluides. Et du coup, je recommencerai, mais j'attendrai au moins que ce soit aussi bien. Et donc, du coup, le faire avec quelqu'un d'autre en coparentalité, je suis pas sûre. J'aurais trop peur que ce soit pas aussi fluide et aussi facile.
Mmh, ce que je comprends.
Donc,
quand on sort d'une bonne expérience, c'est difficile de retenter et de se dire qu'on va gagner une deuxième fois.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais donc voilà. Moi, je sais qu'il y aura un deuxième. Est-ce que ce sera un deuxième en coparentalité? Est-ce que ce sera un deuxième avec quelqu'un avec qui que je vais rencontrer? Ce sera un deuxième toute seule? Je sais pas. Mais je sais qu'un jour, il y aura un deuxième. Mais est-ce que la coparentalité me fait quand même un petit peu peur de... En tout cas, si c'est pas avec lui, ça me fait quand même un peu peur, et je pense pas que ce sera avec lui, puisque je crois que c'est pas du tout sa volonté, et puis je suis pas sûre que c'est ma volonté non plus, en fait. Enfin, j'en sais rien.
Bon, t'as le temps d'y réfléchir.
Oui, c'est ça. C'est pas à l'ordre du jour, et donc du coup, voilà. J'ai pas encore vraiment réfléchi.
Complètement. Et justement, tu parlais de potentiellement donc avoir un deuxième avec un conjoint, en l'occurrence sans forcément faire un deuxième. Comment tu envisages et est-ce que tu envisages de faire entrer quelqu'un dans ta vie et du coup de faire entrer quelqu'un dans la vie de votre fille?
Oui, donc c'est quelque chose dont on a parlé au tout début, bien avant que je sois enceinte. C'est quelque chose qu'on avait abordé, c'était les éventuels nouveaux conjoints, enfin pas nouveaux, les éventuels conjoints. Ben, ça a toujours été clair que, ben, on était tout à fait libre de faire entrer quelqu'un dans notre vie. Après, moi, je suis assez réticente pour l'instant de faire vraiment rentrer quelqu'un dans sa vie. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps entre le changement du boulot, entre le déménagement et tout ça. Je suis pas prête, moi, à lui présenter quelqu'un. Mm-hmm. Mais après, ça se fera sûrement. Voilà, c'est pas comme si on avait été ensemble et qu'on était séparés, en fait.
Oui,
ça arrive,
oui, tout à fait.
Qu'il y ait des nouveaux conjoints et voilà, et c'est chouette. Et moi, j'essaye toujours de présenter des chouettes copines célibataires au père de ma fille, parce que je me dis, si c'est une copine à moi, elle sera forcément chouette. Alors qu'il y a des belles-mères, peut-être elles seront pas cool avec ma fille.
Oui, c'est vrai que tu peux pas avoir la maîtrise là-dessus. Enfin, un petit peu, hein, puisque tu fais l'entremetteuse, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est tu peux pas avoir la main là-dessus. C'est pas simple, ça.
Non, c'est ça. Mais donc voilà. Mais donc, pour l'instant, aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on en a parlé, lui a personne dans sa vie et moi non plus. Et c'est pas encore à l'ordre du jour de présenter quelqu'un, mais ça viendra sûrement, hein. Enfin,
Est-ce que vous vous êtes donné l'autorisation de, en tout cas, vous êtes, oui, donné l'autorisation de vous dire si ça se passe pas forcément bien avec les conjoints ou c'est quelque chose que vous gérez chacun de votre côté et l'autre n'a pas son mot à dire par rapport à votre fille.
On en a beaucoup parlé. Moi, c'était une de mes grosses craintes. C'était du côté de ne pas avoir la maîtrise de qui allait faire partie de la vie de ma fille. Et donc, on en a parlé. On n'a pas vraiment statué sur quelque chose. Je pense que ça dépendra un petit peu de comment ça se passe. Moi, personnellement, si c'est vraiment pas cool pour ma fille, parce que ça se passe pas du tout bien avec une future belle-mère, je me permettrais d'aller lui dire. Oui. Après, libre à lui de l'écouter ou voilà. Et en même temps, si lui venait me dire, écoute, avec ton nouveau conjoint, ça va pas du tout avec notre fille, je serais pas contente qu'il me le dise parce que je trouve que c'est dur à entendre. Et en même temps, si c'est fait pour le bien de notre fille, je l'entendrai quand même, tu vois.
Oui. D'accord, ok. Ok. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est, je pense que c'est peut-être les moments où ça risque d'être le plus délicat, en fait. Donc, je me doute que vous avez dû vous interroger là-dessus.
Oui, mais c'est pour ça aussi que ce contrat, on veut qu'il existe. En fait, c'est parce que depuis le début, moi, c'est ma plus grande peur. C'est vraiment qu'un conjoint soit compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on voulait bien valider et on en a déjà beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qui moi me faisait peur et qu'on est conscient qu'en fait dans les familles recomposées c'est pas toujours facile quoi.
Bah oui, bien sûr. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Mélissa d'avoir partagé cette expérience avec nous. Je trouve que votre parentalité elle me semble très apaisée. Elle est hyper fluide, t'as l'air hyper épanouie, c'est hyper engageant et encourageant parce que je pense que dans mes auditeurs, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui se posent la question de savoir si oui ou non ils vont franchir le cap. Et toi, ton témoignage, clairement, il fait envie.
Ben écoute, avec plaisir, c'est chouette de pouvoir partager une chouette expérience en fait.
Et si ça te dérange pas, si tu m'autorises, je mettrai ton compte Instagram au cas où certaines personnes souhaitent te contacter parce que vraiment, moi, j'ai souvent des demandes et je sais pas quoi répondre parce que j'ai pas beaucoup de témoignages, très peu.
Ben écoute, avec grand plaisir, que les gens n'hésitent surtout pas à me contacter, moi, si je peux partager et aider à passer le cap. On en a pas parlé, mais moi, j'ai cherché beaucoup, beaucoup d'informations quand on était dans le projet, dans la réflexion et que j'en ai pas du tout trouvé.
Enfin, ouais, toi aussi, ouais, tu vois, c'est pas facile hein, sur la coparentalité, il y a pas grand chose.
Ouais, et en plus, moi, toutes les informations que j'ai trouvées, c'était souvent où un des deux côtés, il y avait une sexualité homosexuelle. Mm-hmm. Et donc, j'ai beaucoup vu des témoignages, enfin, beaucoup. Non, beaucoup, c'est pas le mot parce qu'en fait, j'en ai presque pas trouvé, mais dans ce que j'ai trouvé, c'était que des témoignages de maman solo avec un couple d'hommes ou un couple de femmes avec un couple d'hommes qui décidaient de faire la coparentalité. Et j'ai pas du tout trouvé de témoignages de personnes hétérosexuelles qui décidaient de le faire comme ça à deux, sans qu'il y ait... Souvent, il y avait un troisième parent dans l'histoire. Et donc voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que je t'ai dit oui. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai tellement cherché l'info et que je l'ai pas trouvé que je trouve que, bah, moi, je peux partager mon expérience et que ça peut permettre à d'autres gens à passer le cap. Et on espère que du coup, on va susciter des envies de témoigner.
Oui, voilà. J'espère je précise, hein, ma boîte mail est ouverte. Envoyez-moi vos propositions de témoignage. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, encore une fois, je te remercie beaucoup, Mélissa. Et puis, ben, je te dis à très bientôt.
Avec grand plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter le 73e et dernier épisode de la saison 3. 73 épisodes sur une seule et même saison, je n'en reviens pas. Je ne saurais vous dire si c'était raisonnable. Je ne me suis certes pas ménagée, mais je me suis éclatée. Je vous retrouve en septembre pour une nouvelle saison dont les premiers épisodes sont déjà en boîte, et je peux vous affirmer qu'ils sont assez dingues. Parfois, je me demande encore si je vais trouver des témoignages qui vous intéresseront, et puis vous m'en proposez des plus fous les uns que les autres. Septembre marquera donc le début de la 4e saison. Quel chemin parcouru avec vous et grâce à vous. Je n'ai qu'un mot. Merci. Je ne vous laisse pas sans épisode cet été. Déjà, nous nous retrouvons jeudi avec le dernier épisode du Fil Rouge pour cette saison. Et dès lundi, la mini-série autour des coming out vous permettra de ne pas m'oublier pendant l'été. Je vous souhaite un bel été et je vous dis au mois de septembre. Jesus Christ, if you
is less alone. Less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ.